Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue. Michel Coulon et Michel Dudet, bonjour.
Bonjour.
On a la chance aujourd'hui de recevoir deux Michel. Vous êtes Michel Coulon, le fondateur et le président d'honneur de l'association Le Petit Train du Picodon. Et Michel Dudet, vous êtes le président actuel. Vous, Michel Coulon, vous êtes également président de l'association Montélirail qui organise tous les deux ans une grande exposition de modélisme ferroviaire à Montélimar. Alors l'association Le Petit Train du Picodon vise à préserver et valoriser l'histoire du Petit Train du Picodon, une page importante de l'histoire de la vallée du Jabron, de Montélimar à Dieulfi. Je vous propose, même si aujourd'hui, on va prendre le train en marche, de nous emmener, nous et les auditeurs, dans l'histoire, celle que peu d'entre nous avons connue, celle d'un voyage en train aller-retour quotidien entre Montélimar et Dieulfi. À quelle période pouvait-on encore relier ces deux villes en train ?
Alors, la mise en service de ce petit train a eu lieu en juillet 1893, précisément. Le 16 juillet, il y a eu donc l'inauguration avec tous les élus, le président du Sénat, il n'était pas président de la République, Émile Houbet, il était président du Conseil à l'époque. Et le dernier voyage a été effectué le 31 décembre 1936, parce qu'on a eu l'occasion, il y a quelques années en arrière, d'interviewer une personne qui a pris le dernier train de Dieulfi à Montélimar.
C'était pas une évidence. Il y a eu beaucoup de projets avant que ce projet-là aboutisse en 1893.
Oui, mais disons que c'était le fameux plan Fraissinet où tous les chefs-lieux de département devaient être reliés aux artères principales. Donc nous, en ce qui nous concerne, c'était le PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. Parce qu'à l'époque, la SNCF n'existait pas, ça a été créé qu'en 1938. Donc tous les chefs-lieux de département, les chefs-lieux de canton devaient être reliés sur la terre principale. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de projets, énormément de projets. Et donc il y a eu beaucoup de querelles de clochers aussi. Il y a des communes qui ne le voulaient pas, d'autres qui le voulaient. Enfin, on retrouve ça sur des éditoriaux de l'époque. C'était assez sportif aussi. Je crois que maintenant, on n'a rien envie à l'heure actuelle.
Qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné finalement ?
Ben, disons que c'est surtout l'impulsion du futur président de la République, Émile Houbet, en ce qui concerne cette ligne. Quoi. Alors, c'était pour désenclaver aussi tout l'arrière-pays, parce que bon, à l'époque, il n'y avait que des attelages hypomobiles. Je parle ça de fin du 19e siècle, 1893, quand la ligne a été inaugurée. Il n'y avait que des chevaux, des charrettes, il y avait très peu de voitures, c'était infime. Quoi. Donc le train a permis de désenclaver l'arrière-pays. Et surtout aussi, il faut savoir quand même sur Dieulfi, il y avait la poterie, il y avait les tissus morins, il y avait beaucoup
de filatures. C'était un grand centre industriel.
Voilà, il y avait aussi donc des établissements, des hôpitaux, des centres de soins, parce que Dieulfi a toujours été réputé comme un climat particulier pour les maladies pulmonaires, puisque donc, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de centres de repos, mais surtout au niveau industriel et pour désenclaver, c'est l'arrière-pays.
Et Émile Houbet, le jour de l'inauguration, donc c'est une inauguration en grande pompe, un banquet immense, un discours de tous les politiques dans chacune des 7 gares desservies. C'est une petite révolution quand même pour la vallée.
Oui, c'était une révolution, mais il y avait des révolutions aussi, parce qu'enfin, au sens, disons, restreint du mot, par exemple, à Montboucher, il n'y avait aucun élu pour accueillir le train inaugural. Quoi. Il y avait des querelles de clochers déjà à l'époque. Hein.
Mais Émile Houbet, qui parle beaucoup, dans les discours, on parle beaucoup de Paris, des journalistes viennent de la capitale pour couvrir l'événement. Et lui, il déclare, la locomotive ne charrie pas seulement des marchandises, elle transporte aussi des idées.
C'est très juste.
Donc lui, il va quand même plus loin que simplement les aspects industriels de la locomotive.
Oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'était aussi pour désenclaver tout l'arrière-pays. Donc c'était un moyen de communication entre l'arrière-pays, je ne veux pas dire le monde rural, mais bon, tout l'arrière-pays, et puis les grandes artères qui étaient par exemple Paris-Lyon-Marseille ou Paris-Lyon-Méditerranée par le train. Quoi. C'était pour justement permettre donc à ces gens-là qui habitaient un peu loin des grandes agglomérations de pouvoir profiter d'aller aux foires mensuelles ou autres, de s'approvisionner aussi de certaines choses qu'ils ne trouvaient pas sur place. Quoi.
Monsieur Dudet, vous vouliez intervenir, vous me faites
des
signes.
Non, ce que je voulais intervenir, c'était, il l'a dit, c'était à Montboucher, les querelles. Quand ils ont su que le président Émile Loubet allait venir, ils ont reçu un courrier, mais ils ont refusé de le lire, ce courrier.
Ah oui, donc eux, ils ne voyaient pas ça d'un bon œil du tout ?
Non, pas du tout.
Donc il y avait des communes réfractaires.
Il y avait des communes réfractaires, et puis il y en avait qui voulaient... Bon, il y avait un certain nombre de gares qui avaient été décidées sur la ligne, parce que le projet a été maintes fois modifié. Il y avait donc les principaux arrêts, c'était donc... Il y avait au départ de Montélimar, à la gare SNCF à l'heure actuelle, il y avait un bâtiment qui était une gare du Picodon. Je m'en souviens, j'étais tout gamin qu'elle existait encore. Ensuite, il y avait Montélimar Espoulette qui a été détruit il y a quelques années en arrière pour faire un centre médico-social. D'ailleurs, c'est un de nos grands regrets parce que c'était un ensemble qui était magnifique. Après, il y avait alors Montboucher. À l'heure actuelle, il y a une station de service, il y a un café, ça s'appelle le café de la gare. On suppose que la gare, mais c'était des petits arrêts de campagne, ça ressemblait à ce qui existe encore à Port-en-Laine, à la gare de Port-en-Laine qui est sur la 540. On suppose que la gare était là où est l'autoroute à l'heure actuelle. On suppose, c'est sous réserve. Après, il y avait donc, je parle des gares, hein, parce qu'il y avait d'autres arrêts. Il y avait un arrêt là où il y avait une filature, je ne me rappelle plus le nom de ce quartier, avant le pont du TGV. Après, il y avait Puy-Giron. Alors, Puy-Giron, la gare existe toujours. Alors, Puy-Giron, mais c'était dans la commune de la Bâtie-Rollin. Elle existe toujours, elle est dans un domaine privé. On a eu l'occasion de la photographier avec l'accord des propriétaires en 2006, quelque chose comme ça. Ensuite, il y avait la Bâtie-Rollin. Donc, qui existe toujours, qui a été un peu agrandi, mais le bâtiment original reste toujours. Après, il y avait Port-en-Madeleine, qui est sur la 540, qui existe toujours. Et d'ailleurs, je tiens à remercier si les services techniques de ce qu'on appelait à l'époque l'équipement, c'est qu'on a été allé voir l'année dernière, et la gare va être... pas préservée, mais elle va être reconstruite à l'identique à quelques mètres de celle qui est à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, bon, on va conserver un bâtiment,
une trace de cette gare.
Bon, je tiens à remercier donc ces gens-là, parce qu'on y avait été. C'était M. Alain Mouret, le président à l'époque, qui avait fait une démarche dans le cadre de l'enquête publique et qui avait demandé à ce que ce soit préservé.
J'imagine que c'est l'un des objets de votre
association. C'est la seule qui reste, voilà.
Préserver ces gares.
Tout à fait, de les mettre en valeur. C'est la seule qui reste dans le domaine public, avec celle de la Bâtie-Rollin.
Il y a quand même le train qui arrive à Diolfi.
Port-en-Valaine, après il y avait l'abbaye de Mazin. Alors l'abbaye de Mazin, elle se situe à peu près, hier encore, elle a été transformée. Elle se situe donc un peu à côté de la poste. Et il y avait un château d'eau à l'époque. On voit sur les cartes postales un château d'eau qui permettait de réapprovisionner les locomotives donc à en eau. Ensuite, il y avait Poët-Laval. Et puis Diolfi. Diolfi qui était le terminus de la ligne.
Diolfi, c'est votre siège social maintenant, je crois, à la gare.
Diolfi, c'est le siège de l'association. Et il y avait même un projet, on a trouvé ça dans des documents, dans les cartons. D'ailleurs, on a eu une réunion samedi. On va faire un peu le tri des centaines de documents que l'on a, les scanner, les mettre sur
un
disque dur.
C'est
un énorme travail. Et il y avait un projet de prolonger la ligne jusqu'à Bordeaux.
Ah.
Mais là, je pense que le coût était un peu différent parce que ça aurait demandé de nombreux ouvrages d'art, des tunnels ou quoi que ce soit. Mais il y avait un projet.
Et le bâtiment de la gare à Diolfi, donc votre siège social, il est préservé
Il est dans sa configuration d'époque. Bon, il y a eu quelques petites modifs à l'extérieur, c'est-à-dire que les toitures ont été raccourcies pour le passage des cars. Mais autrement, le bâtiment, bon, sauf que...
Il est classé ?
Non, il n'est pas classé. Il appartient à la mairie, mais il n'est pas classé. Mais bon, donc on a la chance d'avoir une municipalité qui œuvre dans le sens de la préservation du patrimoine. Et nous, ça nous permet d'avoir le siège et puis de stocker de nombreux documents. On va recevoir encore des dossiers qu'on nous donne. On a toutes des encyclopédies de trains sur le Picodon et sur les autres. D'ailleurs, à ce sujet, on va ouvrir... on en a parlé avec Michel Dudet, le président actuel, et puis les autres collègues. au mois de juin, puisqu'on ouvre au mois de juin, on réouvre la gare au public, on va avoir une bibliothèque qui sera accessible au public.
On pourra en tout cas aller consulter là-bas
tout à fait. Les documents, les archives, l'histoire des trains, tout à fait.
Sur votre site aussi, que vous avez énormément de photos anciennes. C'est magnifique de voir ce train sur les promenades ici. D'ailleurs, j'ai une question un peu plus technique maintenant sur le train en lui-même. C'était un train ou un tramway?
Ah, très bonne question. Parce que je dirais pas joker, non. Alors, on appelait ça, il y avait plusieurs appellations. Soit les tramways, parce qu'il y avait des tramways aussi qui circulaient dans ce cadre-là. On appelait ça des tortillards aussi. Mm-hmm. Hein, bien souvent, on appelait ça les tortillards. Mais la vraie définition, c'est chemin de fer à voie métrique ou chemin de fer secondaire.
Ça veut dire quoi, à voie métrique?
Alors, c'était qu'il y avait un mètre de large, enfin, un mètre d'entraxe entre les rails.
Alors c'est assez petit, en fait.
Voilà. Hein, alors, pour deux raisons. C'est que ça coûtait moins cher à la mise en œuvre. Deuxièmement, ça permettait aussi de pouvoir passer dans des endroits assez un peu scabreux, c'est-à-dire ça permettait d'avoir des rayons de courbure d'à peu près 50 mètres, c'est-à-dire ça pouvait passer dans des endroits où c'était assez sinueux, que les autres voies ne pouvaient pas le permettre. Alors c'était un peu l'inconvénient de ça, c'est-à-dire qu'arrivé à Montélimar, les wagons ne pouvaient pas être raccordés, qu'ils soient aussi bien voyageurs que voiture de voyageurs ou wagon de marchandises, ne pouvaient pas partir sur le PLM parce que ce n'étaient pas les mêmes entraxes. Donc toutes les marchandises qui arrivaient donc à Montélimar ou qui arrivaient de Dieulefi ou de la Vallée étaient transbordées sur les wagons du PLM à l'époque.
Et il était aussi réputé très lent, il était souvent en retard, ça déraillait pas mal, ça durait une heure et demie entre Montélimar et Dieulefi.
Théoriquement, ça durait une heure et demie, mais bien souvent, c'était plus souvent que... C'était 2 heures.
2h10, 2h15.
Alors, parce qu'il y avait des anecdotes qu'on a connu des gens, bien sûr, qui ont eu l'occasion de monter dans ce train, mais il y a un endroit entre la Bâtie Roland et la Bégue de Mazin qui s'appelle le quartier des Brachettes, où assez souvent les mécaniciens. Alors le mécanicien, c'est celui qui pilotait la machine.
D'accord.
Le chauffeur, c'est celui qui mettait du charbon. Hein. Et là, au quartier Brachette, il y avait un agriculteur et beaucoup des mécaniciens, donc des conducteurs locomotives, le connaissaient. Alors quand ils arrivaient sur l'heure, quand c'était l'heure d'apéro, ils sifflaient, puis le train s'arrêtait, ils allaient boire un coup d'absinthe. Je suppose qu'à l'époque c'était l'absinthe, alors les gens qui étaient dans les voitures de voyageurs, ça hurlait, ça criait et tout, mais ça nous a été ramené énormément de fois.
Qui est-ce qui prenait ce train? C'était les artisans, les commerçants, le peuple, les bourgeois?
Un peu tout le monde, peu tout le monde, oui. On a des histoires rocambolesques. On a la fameuse histoire, mais je n'ai pas amené le procès verbal. Il y avait des contrôleurs, comme à l'heure actuelle dans les trains. Et vers Poët-Laval, il y a un contrôleur qui a changé de voiture parce qu'il n'y avait pas de liaison entre les voitures de voyageurs. Alors, il faut savoir que ces trains, ils étaient mixtes. Vous aviez des voitures de voyageurs et des wagons de marchandises. Maximum 8. Hein. C'était bien souvent, on trouve 6 pour les questions que, bon, c'était pas des machines puissantes, donc il fallait qu'elles gravissent la pente des moulins, le fuste à Montélimar.
7 km/h, c'est ça?
À peu près, parce que 27 km, à peu près 2 heures, voilà, ça fait une moyenne de 8 km/h. Hein. C'était pas le TGV. Si, c'était le train à grande vibration. Et il a été rapporté, puisqu'on a le procès verbal, que donc un contrôleur est monté dans une voiture de voyageurs et il y avait à l'intérieur un chien. Donc le contrôleur a demandé à qui appartenait le chien. Personne n'a répondu. Donc le contrôleur a pris le chien par le collier pour le jeter dehors. Et à ce moment-là, le propriétaire, le maître du chien, il s'est manifesté. Donc il a... Alors c'est bien sur le procès verbal, des braconniers fortement connus, un truc comme ça. Moi, c'est...
Des bandits, quoi.
Ouais, mais c'est vraiment marrant, parce qu'il y a de ces termes sur les procès-verbaux qui sont pas mal. Voilà.
À l'Association du Petit Train du Picodon, vous lancez actuellement une souscription pour tenter d'acheter la toute dernière locomotive à vapeur ayant appartenu au chemin de fer de la Drôme. C'est un projet un peu fou, pour lequel vous avez besoin d'aide.
Oui, mais on est des fous, on est pas.
Vous êtes des fous,
ouais, exactement.
On est un peu fous, parce qu'il y a quelques années, moi, quand Michel a lancé ça, c'était pour le Téléthon. Je dis, mais il est malade de faire une chose pareille, amener un train en autorail en plein centre de Montélimar. Et
pour le Téléthon, vous aviez déjà amené une loco,
un autorail.
Un autorail, et il a réussi son exploit. Hein.
Alors là, l'idée, c'est que cette locomotive vienne à Diolfi.
Alors voilà, donc il restait, parce que bon, pourquoi on a monté cette association en 2006? Parce que c'était à l'occasion, on était quelques collègues autour d'une table dans un bistrot, puis on est venu parler du picodon, du petit train, tout à fait par hasard.
On vient toujours au bistrot. Hein.
Ouais, en général, c'est un lieu de rencontre ou un lieu de création. Et puis on est venu à parler, ah, mais il y a des gens qui l'ont connu, j'ai mon voisin qui l'a bien connu et tout ça. Ça s'est passé comme ça. Mais je dis, c'est quand même dommage d'avoir des personnes qui l'ont connu, on a encore des vestiges, on a peut-être des documents ou du matériel, de ne pas créer une association pour sauvegarder ce patrimoine. C'est parti de là. Bon, au début, c'était à petite vitesse. Ce qu'on faisait, c'était de récolter des cartes postales, récolter des documents et tout. On savait, donc moi je savais personnellement qu'il existait au moins une locomotive qui appartenait au chemin de fer de la Drôme, encore en France.
C'est la seule.
Voilà. Au départ, je savais qu'il n'y en avait qu'une. Donc j'ai fait une recherche et puis un jour, je suis tombé sur la personne qui était propriétaire de cette locomotive, qui était un particulier, je tiens à le préciser. Oh, ça n'a pas été facile. La première fois que j'ai eu au téléphone, ça devait être en 2006. Donc, au début de la création de l'association, je dis, voilà, monsieur... Bon, je peux dire le nom parce qu'il est venu, monsieur Stéphanadzi, Jean-Jacques. Je dis, voilà, monsieur Stéphanadzi, je me présente, Michel Coulon, président de l'association Petit Train de Picodon. Je crois savoir que vous avez une locomotive qui est appartenue au chemin d'affaires à Drôme. Il me dit, oui, je ne veux pas discuter avec des associations. Je me suis dit, ouais, mais c'est mal barré.
Alors maintenant, il y a la possibilité de l'acheter, ça y est.
Alors ça, c'est une autre. Il y en a une deuxième que j'ai trouvée. Alors là, ça a été aussi...
Ah, il y en a une deuxième. Alors
la première, elle est partie, celle qu'on avait fait venir en 2007, elle est partie dans un musée en Anjou. Donc, vous allez sur le musée en Anjou, on la voit.
Enfin. Bon, et la deuxième, alors?
Alors la deuxième, alors là, c'est pareil. J'avais appris qu'il y en avait une deuxième qui était encore vivante, si je m'exprime ainsi, qui était encore, pas en service, mais qui existait. Alors là, ça a été une recherche relativement plus difficile parce que j'avais eu un nom, une région, mais une région au sens large du terme, c'est-à-dire moitié de la France.
Elle se cache, ces locomotives, ma parole.
Oui, parce que c'est
pourtant, c'est quand même très remarquable. Ça.
Ouais, mais c'est recherché. C'est recherché parce qu'il n'y en a plus. Et bon, après, je vous dirai pas, on m'a dit, le propriétaire, il est dans une maison de retraite. Alors, quand je bossais, je faisais du commercial. Je vais expliquer à mes collègues, le soir à l'hôtel, je cherchais les maisons de retraite. Alors,
vous avez mené toute une enquête, vous êtes transformé en
toute une enquête. Ah oui, ça a duré plusieurs mois. Et puis un jour, je tombe dans une maison de retraite, je ne me rappelle plus où exactement, et je demande si monsieur X était présent. Amni, il a 15 jours, il a quitté l'établissement, mais il y a sa cousine. Véridique, hein. Et donc, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me passer sa cousine? La personne qui était au standard me passe sa cousine. Et chez cette dame, je me présente, Michel Coulon, je suis président de Petit Train de Picodon. Je connais bien, bon, je ne peux pas dire le nom, hein, parce qu'on est en négociation actuelle. Je connais bien, mais j'ai un gros souci, j'ai perdu son numéro de téléphone. Ah, mais monsieur, ne coupez pas, je vais vous le donner. Et ça s'est passé comme ça, alors que je n'avais pas le numéro de téléphone.
Donc ah bah partir... des fois, il faut y aller carrément.
Ah ouais. Donc à partir de là, j'ai contacté la personne. C'était pareil, parce que Michel Ludet, le président actuel, l'a rencontré. C'était une très forte personnalité. Il est décédé l'année dernière, à peu près à la même époque que notre collègue du Picodon.
Donc vous êtes en négociation avec ses ayants
avec droit. Ses enfants, voilà. Avec ses enfants. Donc deux de ses fils, parce qu'ils sont trois. Il y a deux fils et une fille.
La souscription, en fait. Du coup, ce sont des promesses de dons. Ça, voilà. Et si vous n'arrivez pas à l'acheter, vous rendez l'argent ou...
Alors c'est pour ça qu'on a lancé... pourquoi on a lancé un appel aux dons? On l'a lancé dans le cadre que l'association proprement dite n'a pas les finances pour faire cette acquisition, sachant qu'on ne sait pas du tout le prix, ce que vont nous en demander les enfants. Donc on a lancé un appel aux dons, étant donné que l'association est déclarée d'intérêt général, les gens, les donateurs, peuvent déduire 66%
de leurs dons
des impôts.
Au moment de la déclaration d'impôt.
Donc là, on a récolté pas mal de dons, ce qui nous fait plaisir, parce qu'il faut savoir que cette démarche s'inscrit dans le patrimoine, pour nous, c'est la protection du patrimoine. Et comme je l'ai dit à la presse écrite, on a une occasion, on n'en aura pas deux. Parce que si elle part ailleurs, après, si elle part dans un chemin de fer touristique... pour la récupérer, ça sera terminé. Donc on a la chance d'avoir cette deuxième locomotive, il n'y en a plus d'autres, hein. C'était les deux dernières qui restaient.
Donc il faut qu'on se dépêche.
Il faut qu'on se dépêche, donc on est allé la voir, on est parti 3 jours, on ne peut pas vous dire le lieu où c'est. On est parti 3 jours, on a rencontré deux des enfants, pas la fille mais deux des enfants. Pour l'instant, on a pas approché le prix, on a sondé un petit peu, mais ils ont tellement de choses à régler que c'était pas le jour de la rencontre la priorité.
Donc celle-là, celle qu'on va certainement avoir, elle est nickel, alors, pas besoin de peinture.
Alors celle-ci, elle est nickel, bon, sauf que Karl est allé la revoir là, il y a 15 jours, donc il manque des pièces parce qu'il y a eu des vols, mais bon, a priori, les enfants auraient enlevé certaines pièces, mais on sait pas les pièces qu'ils ont enlevées.
Alors, ça, c'est dans un deuxième temps.
Voilà, on va voir l'essentiel. Alors, c'est une corpélouvée. On a toutes les preuves aussi qu'elle appartenait au chemin de fer de la Drôme. Et on a quand même, je crois, trouvé ce coup-ci une photo qui la voit sur la ligne Montémar-Dieulfi. On est en train de vérifier, parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier. Par contre, on a tous les éléments. C'est une corpélouvée type 030, c'est-à-dire 3 essieux. Elle est sortie d'usine le 19 mars 1897. J'étais jeune à cette époque-là. Portant le numéro 691, c'est le numéro de fabrication de la locomotive que l'on voit ici sur cette photo que je vous présente, vous voyez, 691, et elle s'appelait, elle avait été baptisée la Marne, donc dans les compagnies du chemin de fer de la Drôme. Je ne vois pas pourquoi la Marne, mais enfin, bon, peu importe. Par contre, ce modèle-là était affecté à Montélimar.
D'accord.
Ça, on a tous les éléments.
Ben écoutez, merci. Merci beaucoup. Hein. Ça fait rêver, en fait. On a envie que ça fonctionne et de récupérer cette dernière locomotive à vos côtés. Et pour cela, on peut participer. Et comment on fait pour participer? Alors, on va sur le site, je pense.
Alors, vous avez la solution la plus simple, c'est que, bon, comme le siège de l'association est à la Dieulefi, donc c'est l'association hôpitalienne du Picodon, place de la gare, 26 200 Dieulefi. Les gens, ils peuvent envoyer un chèque, donc ce qu'ils veulent. À réception du chèque, on leur envoie un document, le CERFA 1180 étoile 03, qui leur donne la possibilité de déduire ses impôts. Donc les gens reçoivent après un document officiel, comme quoi ils ont fait un don.
Qui leur permet à la fin de l'année de déduire.
Alors on lance un appel parce que le temps presse, il nous reste peu de temps. Moi, je ne sais pas si vous le savez, c'est que maintenant les successions pour les déclarer, c'est 6 mois. Donc il nous reste peu de temps, on voudrait pouvoir boucler ça, si on peut, d'ici avoir suffisamment d'argent pour pouvoir négocier d'ici la fin du mois de février. Donc on lance un appel pressant aux donateurs.
On se retrouve tous sur le site, donc lepetittraindupicodon.fr, lepetittrain-du-picodon.fr. Avant de nous quitter, Monsieur Dudène, vous nous avez parlé d'un événement important au mois d'avril qui va se passer à Dieulefi. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire ce qui va se passer,
oui,
à la halle?
À la halle de Dieulefi, il va y avoir une exposition de trains, de petits trains.
Une bourse
de train où on peut acheter des wagons, on peut acheter des maisons. Ceux qui ont des circuits, ben, ça permet d'agrémenter leur circuit en plus.
Et
ça se fera un dimanche.
Et la prochaine grande exposition aussi de modélisme ferroviaire organisée par l'association Montélirail, c'est en octobre 2018 à Montélimar.
Alors, c'est le 13 et 14 octobre au Palais des Congrès. Donc, il faut savoir que c'est devenu une des 5 plus belles expositions de France. Je ferai une parenthèse sur la bourse du 8 avril qui est importante, qui va se dérouler à la halle Dieulefi, c'est qu'on le fait aussi pour la veuve de l'ancien président qui est décédé
cette année.
Donc il avait du matériel, on va le mettre à la vente et tout l'argent qui sera récupéré de la vente de ce matériel lui sera restitué. Donc c'est une action particulière.
En hommage.
En hommage, voilà, tout à fait.
Merci beaucoup d'être venus, messieurs Michel et Michel.
Michel au carré, oui.
Michel au carré. Merci à Caroline Dumas, à la technique, et à bientôt.
À très bientôt. On vous tiendra au courant.
Je n'aurais pas eu le cœur. triste train qui siffle dans le soir. Je pouvais t'imaginer toute seule, abandonnée sur le quai dans la cohue des au revoir.
Radio La. Média.
Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir.